Midi 13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver en direct. Je dis en direct parce que la semaine dernière, nous n'étions pas en direct, Nadia, pour des raisons de démontage et de remontage de studio. Vous m'avez manqué. Attendez, on va vous régler votre micro, comme ça on va vous entendre. Rapprochez-vous, voilà.
C'est bon.
Ah, on entend votre voix.
Bonjour Philippe. Bonjour.
Nadia Elbouga, sage femme et sexologue clinicienne, everywhere in the media.
Vous anglicisez.
Écoutez, j'ai vu qu'une journaliste américaine vous a pas traité, mais vous a présenté comme une muslim sexologue thérapiste.
Oui. Bah écoutez, j'ai
l'acronyme
appris...
m'a fait peur.
Oui, parce que j'ai appris lors de l'interview que oui. Le sexologue n'existait pas. Le terme sexologue n'existait pas chez les anglo-saxons.
Et qu'est-ce qu'ils disent alors? Thérapiste.
Eh ben, ils disent sex therapist.
Ah bon, d'accord. Bien.
Voilà.
Vous êtes parti à la conquête des États-Unis. On vous retrouve également dans les courriers de la classe de ce mois-ci. On va parler d'un sujet dont on parle, mais alors vraiment depuis longtemps, Nadia. Je crois que même qu'au début, vous vouliez faire une émission, quand on a commencé cette série d'émissions sur cette thématique, qui vous a rattrapé d'ailleurs, puisque c'est devenu une thématique, alors je vais pas dire à la mode, mais en tout cas, dont les médias féminins se sont emparés. Aujourd'hui, nous recevons Nathalie Clary. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, vous êtes présidente de l'association Endomind France, une association qui a pour vocation d'aider et soutenir et de valoriser toutes les initiatives, dites-vous, qui permettent de donner plus de visibilité à l'endométriose. Et en parlant de visibilité, cette année, vous en avez eu de la visibilité. Qu'est-ce qui fait que finalement, cette maladie qui pendant des années avait été sous-estimé, enfoui, subitement a été reprise par tous les médias féminins?
Alors je pense qu'il y a eu un gros travail aussi qui a été fait par le milieu associatif pour la faire connaître depuis 3 ans à peu près, depuis l'organisation de la première marche mondiale, donc qui était en 2014. Donc ça a été le déclencheur pour une médiatisation sur le sujet.
On disait que finalement il y avait des sujets qui arrivaient sur la scène médiatique et puis d'autres qui disparaissaient. Vous avez d'abord une artiste qui a décidé d'en parler et donc c'est important aussi pour intéresser les médias. Et puis vous avez eu l'aide de Julie Gaillet.
Oui, exactement.
Donc ça aide beaucoup.
Ça aide beaucoup.
L'endométriose, c'est pas du tout rare, contrairement à ce qu'on pense.
C'est une maladie très fréquente, en fait, qui touche 1 à 2 femmes sur 10 en âge d'avoir des enfants. Donc c'est effectivement très fréquent, mais on en parle peu. Et elle existe depuis très longtemps, puisqu'elle a été observée pour la première fois en 1860.
Comment est-ce que vous expliquez qu'une maladie qui soit si fréquente, et qui a rien pour être tabou, finalement, soit tellement méconnue?
Elle n'a rien pour être tabou et pourtant elle est entourée de tabous. Donc elle touche à la féminité, au corps de la femme, à la douleur féminine. Donc ce sont des sujets qui sont en général très peu abordés ou minimisés.
Mais pourquoi est-ce que c'est entouré de tabous? Comment est-ce qu'il s'est construit le tabou autour de cette maladie?
Le tabou autour de cette maladie, je pense qu'il est directement lié aux règles. Parce qu'on nous a appris, à toutes les femmes, je pense, depuis des générations, on se transmet cette idée reçue qu'avoir mal pendant les règles, c'est normal. Donc, on a tendance à taire cette douleur, tout simplement. Ça a été, je pense, le premier tabou.
Mmh. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'endométriose et qu'est-ce que ça n'est pas? Parce que finalement, il faudrait peut-être la définir.
Alors, c'est une maladie.
Ça, c'est parce que vous dites avoir mal pendant les règles, mais est-ce que ça veut dire qu'une femme qui a mal pendant ses règles a forcément une endométriose?
Non, pas forcément. C'est un des symptômes, c'est le premier des symptômes. Et il faut aussi mesurer la douleur. Si c'est une simple douleur qui passe avec des antalgiques, c'est pas forcément une endométriose. Par contre, si ça commence à être handicapant, qu'aucun antalgique ne fait d'effet et qu'on est dans l'incapacité d'aller travailler, d'aller à l'école et que c'est récurrent surtout, là il faut commencer à s'inquiéter.
Le fameux mal au ventre. Nadia, vous pouvez nous expliquer comment finalement on a pu construire un tabou autour de cette maladie?
Alors, comme pour tout ce qui touche au corps de la femme, hein, ce qui touchait et ce qui touche toujours au corps de la femme, il y a des tabous qui sont construits. L'a dit très justement Nathalie, c'est une maladie chronique qui touche au corps de la femme, mais pas n'importe quel endroit du corps de la femme. Elle touche précisément l'intimité, les parties génitales. Donc, qui dit intimité, parties génitales, règles, parce qu'effectivement, ça tourne aussi de, autour de ça, hein, de cette notion de pureté, d'impureté. Ça voudrait dire aussi que cette femme mettrait à jour, en fait, ce qui est souhaitable, hein, pour le, la société, de rester voilà, dans le cadre de l'intime de cette femme-là. Il y a ça. Il y a aussi le tabou de la douleur, tout simplement. Et ça, c'est une conception qui est très judéo-chrétienne. C'est-à-dire que la femme est faite pour souffrir. Et qu'on retrouve chez les musulmans également, hein. C'est, je jette pas l'opprobre sur la communauté judéo-chrétienne, mais la racine vient de là. C'est-à-dire que enfanter dans la douleur, c'est normal. Avoir mal pour une femme, c'est normal. Donc la douleur pour la femme, c'est normal. Alors l'homme, s'il souffre, c'est absolument pas normal, il faut y remédier parce que tout de suite, hein, parce que sinon c'est le déséquilibre.
Là c'est vraiment, vous exagérez, c'est vraiment de la mauvaise foi.
Ah non, je vous assure que je n'exagère absolument pas.
Ah si, Nadia, là vous en exagérez, parce que nous, les hommes, on endure.
Je suis.
Et on serre les dents.
Je suis un peu plus sérieuse. Non, très sincèrement, cette douleur, d'ailleurs, j'en parlais en antenne, en milieu hospitalier. Pour ceux qui appartiennent au milieu hospitalier, sauront de quoi je parle. On parle très souvent, pour ne parler que de ça, du syndrome méditerranéen, par exemple. C'est-à-dire une femme qui viendrait du pourtour méditerranéen. Alors, quand je dis pourtour méditerranéen, c'est pas forcément le Maghreb. Hein, c'est le pourtour méditerranéen, c'est aussi le
sud jusqu'à la
de
Corse.
L'Espagne, l'Italie, la Corse, voilà. Donc, quand une femme se présente en gémissant ou en exprimant une douleur, il faut croire qu'elle n'a pas, on lui prête pas la même échelle de douleur. Parce que vous savez, maintenant, qu'en milieu hospitalier, on a une échelle d'évaluation de la douleur qui va de 0 à 10. Et ben, une femme qui viendrait du pourtour méditerranéen, il est presque acquis qu'elle soit autour de 8 ou 9, c'est quelque chose de normal. Et ben, non. Qu'une femme vienne du pourtour méditerranéen ou d'ailleurs, une femme qui se plaint de douleur, ce n'est pas, comme on peut l'entendre, parce que le tabou vient aussi de là, parce que on va en parler un petit peu plus en profondeur par la suite, mais il y a aussi une question qui tourne autour de la sexualité, puisque les femmes qui sont atteintes d'endométriose sont des femmes, on le verra par la suite, qui peuvent présenter des dyspareunies, on a déjà parlé, dyspareunies, douleurs lors de la pénétration, et donc ça reste tabou, parce que déjà, on entre de plein fouet dans la sexualité de cette femme, de ce couple, mais aussi parce que ça n'arrange pas certains hommes, disons-le clairement. Une femme qui se plaint de douleur à la pénétration, eh ben, au fur et à mesure, comme c'est répétitif, comme l'a dit très justement Nathalie, c'est répétitif, donc non, c'est pas possible, elle cherche une excuse. Et comme par hasard, c'est toujours au moment où moi, j'ai envie d'eux. Donc il y a de ça qui se joue. Et il faut le dire.
Alors ça se développe à partir de quel âge ?
À partir des premières règles. Mmh. Certaines femmes ont même pu ressentir des douleurs avant l'apparition des règles. Il y a quelques cas qui ont été mentionnés. Mmh.
Ça veut dire que si... Alors ça c'est une question, mais finalement, est-ce que si les femmes n'en parlaient pas, c'est parce qu'elles ne connaissaient pas la maladie, donc finalement on trouvait que c'était normal, ou c'est parce qu'on ne prenait pas en compte la réalité de leurs douleurs ?
Alors, il y a les deux. Elles ne connaissent pas la maladie et le corps médical ne la connaît pas non plus.
Donc, c'est peut-être pour ça qu'on n'en parlait pas, tout simplement.
Voilà, exactement.
Oui, Philippe. Mais il n'empêche qu'actuellement, on parle d'endométriose, mais il y a quand même, Nathalie nous le dira, des zones où des femmes n'en parlent pas et pourtant, elles ont eu connaissance de la maladie.
Tout à fait.
Moi, j'essaie de comprendre pourquoi en 2016, et avec toutes les révolutions féminines qu'il y a eu quand même avant, on n'en a pas parlé avant. Il y avait la parole s'est libérée depuis les années 70 quand même.
Pas tant que ça, finalement.
Bah, si, quand on y pense, quand on voit tous les combats que les femmes ont menés depuis les années 70, on se demande pourquoi elles n'ont pas mené celui-là en plus des autres.
Il y a eu des actions qui ont été faites déjà précédemment, mais peut-être pas aussi intensément, peut-être, je ne peux pas l'expliquer, mais effectivement, il y a quand même des actions qui ont été faites par d'autres associations depuis le début des années 2000, quand même.
Et ça n'intéressait probablement pas, en tout cas c'était, on va le dire plus sagement, peut-être pas une priorité du corps médical aussi. N'oubliez pas que si on développe la connaissance concernant une pathologie quelconque, d'ailleurs même en sexologie, il faut que le corps médical s'y intéresse, et donc si le corps médical s'y intéresse, les laboratoires s'y intéressent, les laboratoires pharmaceutiques, mais les laboratoires de recherche également s'y intéressent. Donc voilà, c'est une des explications.
Qu'est-ce qui pousse les femmes à consulter donc, Nathalie?
La première raison, c'est les douleurs qui deviennent fortes, handicapantes, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est la première raison pour laquelle elles vont aller consulter. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il devrait y avoir peut-être un médecin interpellé par ces douleurs, et ça n'est pas le cas encore. Et la deuxième raison, c'est quand elles ont des difficultés à avoir un enfant. Donc c'est en général à ce moment-là qu'on s'interroge un petit peu plus sur la possibilité d'une endométriose.
Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, quelles sont justement les difficultés que ça engendre sur la fertilité?
Alors,
Il y a un lien. Est-ce qu'il y a un lien qui est mesuré ou pas?
Oui, très clairement. C'est aujourd'hui la première cause d'infertilité en France, en tout cas, c'est l'endométriose. Donc ça, c'est un fait établi. Voilà. Donc, on n'a pas expliqué techniquement ce qu'était l'endométriose aussi.
Est-ce que ça se voit? Est-ce que oui, effectivement.
De le faire. L'endométriose se manifeste par des tissus, je vais schématiser, hein, de l'utérus qui vont se loger sur d'autres organes et se développer au fur et à mesure du cycle. Elles suivent le cycle. Donc, ça crée des adhérences, des kystes et des nodules. Donc des adhérences entre les organes qui peuvent être atteints. Ça peut être n'importe quel organe, malheureusement. Donc ça peut être la paroi interne du ventre, ça peut être les reins, ça peut être la vessie, ça peut être le rectum, ça peut monter jusqu'au poumon, voire pour des cas rares, même plus haut. Voilà, donc forcément quand il y a des adhérences et des douleurs comme c'est le cas, c'est beaucoup plus difficile pour l'anidation, ne serait-ce que ça. Et voilà, donc ça crée effectivement des problèmes de fertilité.
Bien, on parle de l'endométriose ce matin jusqu'à 13h. Vous pouvez poser vos questions au standard à votre santé 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, à votre santé. Nous parlons de l'endométriose ce matin avec Nadia Elbougaï, notre invitée Nathalie Clary, qui est la présidente de Endomind France, l'association qui a mis la question de l'endométriose sur la place publique avec une campagne, et on en parle ce matin. Vous pourrez poser bien sûr vos questions au 01 53 48 3000. J'aimerais qu'on accueille Fadois, qui nous appelle de la région parisienne. Bienvenue Fadois, on vous écoute.
Oui, bonjour tout le monde. En fait, j'avais une petite question à poser. Alors, c'est pas vraiment concernant l'endométriose, parce que ça n'a jamais été confirmé par les examens que j'ai effectués. C'est un peu une infertilité inexpliquée, en fait, c'est ce qu'on nous dit en ce moment. Je sais que c'est très commun. J'ai passé un certain nombre d'examens et mon mari aussi. Alors l'endométriose, je voudrais juste être sûre aussi et savoir quel est l'examen à passer pour le mettre de côté, hein, ce problème. Parce que moi, j'ai dû faire une hystérographie, une échographie, enfin plein de choses.
Alors il y a...
Alors Nathalie, pour répondre à Fadois.
Il y a plusieurs examens qui peuvent être pratiqués. La chose la plus importante, à mon sens, c'est déjà d'avoir affaire à un gynécologue qui connaisse bien la maladie. Ça, c'est très important parce que un examen qui est pratiqué par un médecin qui ne connaît pas bien la maladie peut ne pas le voir. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc les examens, alors déjà le médecin peut pratiquer un questionnaire ciblé qui pourra lui permettre de s'orienter vers la piste de l'endométriose ou pas, ne serait-ce qu'une échographie endovaginale, un radiologue qui connaît très bien l'endométriose ne passera pas à côté, déjà avec cet examen-là. Voilà. Ensuite, ça peut aller plus loin avec une IRM, une célioscopie, éventuellement, si le médecin le juge nécessaire.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que tous les gynécologues ne sont pas au fait avec la maladie.
Exactement. Et ça, c'est très important. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de l'association, il y a une page qui indique les médecins avec lesquels nous collaborons et qui sont très au fait de la maladie.
D'accord. Moi, effectivement, j'ai passé plusieurs échographies et je pensais vraiment que l'hystéro était quelque chose de très poussé, qu'on pouvait vraiment voir les anomalies. Et si justement ma gynécologue, je pense en avoir vraiment une compétence, si elle m'en a pas parlé, est-ce que c'est parce que elle ne l'a pas vu du tout ou est-ce que je devrais plutôt retourner la voir et lui demander à faire un examen complémentaire?
Alors là, je ne sais pas si cette personne est très au fait de la maladie, donc ça, c'est vraiment important. Donc,
est-ce que vous lui avez posé la question, voilà. Ça doit...
Non, je ne lui ai pas posé la question, parce qu'en fait, c'est une gynécologue qui, effectivement, ne fait pas de suivi de grossesse et qui se concentre exclusivement sur des problèmes gynécologiques qui peuvent être l'infertilité ou même autres problèmes gynécologiques qui ne touchent pas du tout la fertilité. Donc c'est pour ça que je ne lui ai pas du tout posé la question de l'endométriose, parce que pour moi, ça, ou les deux sources, entre guillemets.
Mmh. Alors Fadoua, justement, elle est partie avec une prise en charge de cette infertilité et elle n'a pas ciblé particulièrement l'endométriose. Elle est partie avec une prise en charge, on va dire, d'abord globale. Donc, si elle vous a fait une hystérosalpingographie, c'est déjà pour vérifier que les trompes ne soient pas bouchées, qu'il n'y ait pas d'anomalie au niveau de l'utérus. Donc, c'est une exploration interne qu'elle a fait au niveau de l'utérus et des trompes. Maintenant, l'endométriose, comme l'a très justement dit Nathalie précédemment, vous pouvez avoir des foyers qui ne soient pas installés au niveau en intra-utérin et pas au niveau des trompes non plus, mais ailleurs. Et par exemple au niveau des ovaires ou même au-dessus. Donc du coup, là, ça peut effectivement avoir un impact sur cette fertilité, même si en intra-utérin, tout est normal, entre guillemets. Donc il faut effectivement, comme l'a dit Nathalie, aller chez un gynécologue qui est vraiment un gynécologue référent concernant l'endométriose, qui va déjà, par le sens clinique, pouvoir poser un diagnostic clinique avant de sauter sur les examens complémentaires, cibler avec son anamnèse, c'est-à-dire avec son interrogatoire médical, parce qu'il est précis pour chaque pathologie. On a une méthodologie pour pouvoir questionner la patiente. Et par la suite, il ciblera, parce que même pour l'endométriose, on peut demander une IRM ou une celluloscopie en fonction de ce que vous allez dire. Donc l'examen lui-même, même s'il y en a plusieurs, va être ciblé en fonction de ce que vous allez lui présenter.
D'accord. Alors, juste une dernière chose, après je laisse l'antenne pour les autres personnes qui appellent. Moi, j'avais juste eu des soucis. Bon, ça va peut-être paraître un peu trash. J'avais des saignements qui apparaissaient avant mes menstruations, avant mes règles, et donc ça m'inquiétait un petit peu. Et donc elle a fait un contrôle d'ostéomètre. Parce que tout était nickel quand on a fait de l'échographie pour contrôler l'endomètre, pour vérifier qu'il n'y avait pas de métrorragie ou autre. Est-ce que c'est ça ou est-ce que...
C'est pas forcément en lien avec l'endométriose. Non, pas forcément en lien. Est-ce qu'elle vous a fait un bilan hormonal?
Oui, tout à fait. J'en ai fait faire un dans un laboratoire à Paris,
oui.
Qui pour elle était. C'était juste une petite chose qui était élevée, mais très légèrement. Et alors, je me souviens plus du tout qui était légèrement élevée. Et elle m'a donné un traitement à prendre une fois par semaine, un petit complément une fois par semaine pour le diminuer un petit peu, parce que ça peut. Ça peut avoir des coûts sur l'infertilité, mais pas énormément.
Justement, juste une chose. Il faut savoir que un gynécologue qui est justement sensibilisé par rapport à l'endométriose particulièrement, sait que l'endométriose peut être associée à d'autres pathologies, notamment la présence de fibromes intra-utérin ou extra-utérin, à ce qu'on appelle une rétroversion de l'utérus, donc un utérus qui, normalement, l'utérus est en avant, dans le corps de la femme, mais certaines
certaines femmes ont un utérus qui est plutôt dévié vers l'arrière. Ça n'a rien d'anormal, mais associé à une endométriose, ça peut multiplier la douleur. Donc, un gynécologue qui est sensibilisé à l'endométriose va rechercher, en fait, parce qu'il sait que ça peut être multifactoriel, donc il va rechercher différents éléments. Il ne va pas se cibler uniquement sur telle ou telle chose.
D'accord.
Donc je vous invite, comme Nathalie, oui, à consulter vraiment un gynécologue qui est spécialisé dans cette maladie chronique.
Il confirmera ou non le diagnostic.
Exactement. Voilà. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Merci Fadoua pour votre appel. À bientôt. Est-ce que plus tôt c'est détecté, plus tôt c'est pris en charge et plus tôt on guérit?
Alors on ne guérit pas.
Bon.
Malheureusement, c'est une maladie incurable. En revanche, plus tôt on est pris en charge, mieux on peut gérer la maladie et améliorer la qualité de vie et préserver la fertilité de la femme. Ça, c'est important, déjà.
On parle plutôt de rémission que de guérison.
Ouais. Comme dans un cancer.
Exactement, tout à fait.
D'accord, et donc la prise en charge consiste en quoi?
Ah, ça va dépendre des cas, mais la prise en charge, vous parlez des traitements qui peuvent préconisés. Donc, on peut avoir des traitements hormonaux, donc qui consistent à bloquer les règles, ce qui permet de ralentir l'évolution de la maladie, puisque la maladie se développe avec le cycle. Il peut y avoir des traitements chirurgicaux, donc qui consistent à enlever les adhérences, les kystes, etc. Et puis après, ça va être des traitements qui vont permettre de réduire les symptômes et d'améliorer la qualité de vie, principalement. Mais il n'y a pas de traitement définitif.
En sachant que la plupart, c'est l'erreur qui a été faite pendant très longtemps, les médecins généralistes ou gynéco, plutôt d'abord en première intention généraliste, parce que on en parlera, mais il y a ce tabou là aussi, hein, d'aller consulter chez le gynécologue, et donc c'est le médecin généraliste qui est la première interface. Mettait en fait les jeunes femmes sous pilule œstroprogestative. Et alors il y a deux conséquences. La première, c'est que ça camouflait du coup, alors oui, ça pouvait soulager certaines femmes, mais du coup ça camouflait la maladie, qui par ailleurs cette pilule œstroprogestative diminuait voire faisait disparaître la douleur, mais n'empêchait pas l'évolution de la maladie. Donc les foyers d'endométriose continuent.
Ça cachait,
Exactement.
C'était un leurre.
Exactement comme pour l'infertilité. Hein, on en a parlé lors d'une émission. Des femmes qui ont accusé
la
contraception, voilà, de leur infertilité. En réalité, il y avait déjà un terrain d'infertilité et la pilule est venue, juste reculer en fait le diagnostic à plusieurs années après. Et deuxième chose, c'est que les œstrogènes dans les pilules œstroprogestatives peuvent faire flamber l'endométriose. Donc en fait, ça c'est une pratique qui se faisait pendant des années. On a voulu après changer les choses en mettant sous progestatif pur, mais ça n'a pas non plus arrangé les choses. Donc en fait, l'idéal, et c'est pour ça qu'il faut aller vers des équipes qui sont compétentes en la matière, en réalité les traitements idéaux, c'est ceux qui sont mixés, c'est-à-dire une combinaison juste.
Donc c'est une stratégie.
Voilà, exactement. Ouais. Et c'est du cas par cas.
C'est
donc je
c'est
dis
le gros
bien
problème.
Exactement aux femmes de ne pas se dire ma copine elle a une endométriose comme moi, donc on lui a donné,
je vais bricoler pareil, je vais prendre la pilule miracle.
Exactement.
Et voilà,
on lui a donné des hormones qui ont bloqué ses cycles et qui l'ont mis en ménopause artificielle. Et ben elle revit, donc moi je veux la même chose qu'elle. Non, il faut vraiment poser le diagnostic de cette endométriose, et en fait c'est du sur-mesure la prise en charge de ces femmes.
Alors Sabria est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue Sabria, on vous écoute.
Bonjour, alors je viens de capter votre émission à l'instant. J'ai, il y a 9 mois maintenant, été orientée par ma gynécologue pour une échographie, parce que on avait du mal à avoir un deuxième enfant. Ça faisait déjà pas mal de temps qu'on essayait. Et puis beaucoup de douleurs dans le bas du ventre. Donc lorsque je suis allée à l'échographie, Enfin, voilà, l'échographe m'a d'emblée posé un diagnostic. Et en fait, mon témoignage, il est pour ça, c'est qu'on entend beaucoup parler d'endométriose. J'ai moi-même une amie qui a cette maladie. Et par contre, le diagnostic qui a été posé par l'échographe immédiatement, c'est que j'avais une endométriose, qui avait des tissus apparemment qui migraient, que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfant. On s'est effondré, je me suis effondrée.
Normal.
Et 2 mois après, j'étais enceinte et je suis sur le point d'avoir mon deuxième enfant. Donc mon témoignage, c'est pour dire que parfois, j'entends ce que vous dites, qu'il y a des personnes qui sont spécialisées, qui savent ce qu'est l'endométriose, et parfois la précipitation peut faire dire des choses par des spécialistes qu'on peut croire. Nous, vraiment, ça a eu une conséquence énorme sur notre morale pendant 2 mois. Et au final, il n'y avait absolument rien du tout, pas d'endométriose. La gynéco, quand elle a vu les examens, elle a tenté de nous rassurer. Mais malgré tout, c'est resté dans l'esprit. Et je dirais qu'on a eu la chance de pouvoir avoir un deuxième enfant qui est sur le point d'arriver. Donc, on entend beaucoup parler d'endométriose. On entend beaucoup de choses qui sont dites. Et moi, je tenais juste à témoigner de ça, qu'il faut parfois s'entourer de plusieurs professionnels pour être sûr de ce qu'on a. Parce que quelqu'un qui est, par exemple, on sait rien, moi, hein, c'était pas notre cas, pas mon cas, mais quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui attend un enfant depuis des années, et à qui on annonce ça, ça peut avoir des conséquences catastrophiques, selon moi.
Alors, merci Sabrina pour votre témoignage, poignant, parce que j'imagine que durant cette période-là, effectivement, vous êtes passé par des hauts et des très bas. Mais votre témoignage est fondamental. Pourquoi ? Je suis très étonnée d'entendre qu'un collègue échographiste ait pu vous qu'il pose un diagnostic, c'est une chose. Mais qu'il l'annonce de façon comme ça rédhibitoire votre stérilité, parce qu'en fait il vous a parlé de stérilité, là il vous a pas parlé d'infertilité, hein, c'est quand même deux choses différentes. Là, écoutez, je tombe de ma chaise.
Pourquoi c'est pas à lui de le faire ?
Je tombe de ma chaise. Je tombe de ma chaise pourquoi ? Parce qu'effectivement, il faut remettre les choses à leur place. Hein. Un radiologue, un échographiste, est là pour poser un diagnostic visuel. C'est-à-dire qu'il constate, il donne un constat. Je vois qu'il y a des foyers à tel endroit, de telle taille, de telle épaisseur. Basta. Ensuite, on transmet le compte-rendu au médecin qui est référent, qui vous suit. Et le médecin référent, en fonction des données qu'il y a dans ce compte-rendu, va estimer, il va poursuivre sa prise en charge en disant, voilà, il y a ce constat-là, maintenant on va pousser avec un autre examen complémentaire pour effectivement aller explorer en profondeur et voir où sont situés précisément et les visualiser, ces foyers-là. Et dans ce cas-là, on passe à un examen un peu plus invasif, on va dire. C'est pas à l'échographiste de vous dire ça. Donc là, il a outrepassé, si ça s'est passé comme ça, il a outrepassé ses fonctions. Donc vous faites bien, Sabria, merci beaucoup de préciser ça, parce qu'effectivement, pour l'endométriose et pour toutes les pathologies d'ailleurs, hein, c'est une action pluridisciplinaire. C'est pas chacun est à sa place, donc on s'érige pas gynéco quand on est échographiste ou chirurgien lorsqu'on est radiologue. Donc c'est très important. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Non, je pense que là, vous avez tout bien résumé.
Vous l'avez énervée, là. Elle a été énervée, là.
Oui. Non, parce que c'est grave, ce que souligne la Sabria. C'est très grave. On reste à sa place. Je vous donne l'exemple de ma propre pratique. Je suis sage-femme, d'accord ? Donc, sage-femme, sexologue, clinicienne, ok. Mais là, je parle de ma profession de sage-femme. Il y a eu un agrandissement des compétences chez les sages-femmes. Donc, on fait du suivi gynécologique. Et je ne suis pas gynécologue, je suis sage-femme. C'est-à-dire que j'ai la compétence de pouvoir faire notamment des frottis, un examen gynécologique standard. Lorsque j'arrive à la porte de la pathologie, ce n'est pas à moi
d'annoncer tel ou tel diagnostic, je réfère à mon collègue gynécologue et lorsque j'ai une suspicion d'endométriose, je réfère à un gynécologue compétent.
Alors, par contre, permettez-moi de rajouter juste une chose qui est importante de dire, c'est que c'est pas parce qu'on a une endométriose qui a été diagnostiquée qu'on est forcément infertile. Non plus.
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, des études ont démontré que, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais il y a différents stades dans l'endométriose. Ça va du stade 1 au stade 5. Grosso modo, le stade 1, c'est le stade dit minime, même s'il n'est pas minime pour la femme, parce qu'au stade 1, elle peut déjà avoir très très mal. Et le stade 5, c'est vraiment le stade où là, on doit aller curter en fait les foyers, parce que là, c'est vraiment une expansion très importante. Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Je vous dis que vous le direz tout à l'heure.
Eh bien, très bien.
Comme
je
ça, vous avez quelques minutes pour retrouver ce que vous voulez dire. Merci, Sabria, pour votre appel. On parle de l'endométriose. Et si vous voulez intervenir et poser vos questions, composez le numéro du standard à votre santé, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Allez, c'est votre santé. On parle d'endométriose ce matin avec Nadia Elbouga et un autre invité, Nadia, qui s'appelle Nathalie Clary et qui est présidente de l'association Endomind France. On rappelle toutes les coordonnées de votre association parce qu'il y a beaucoup d'informations pour celles qui nous écoutent et qui justement chercheraient un spécialiste, comme vous le disiez, des informations sur la maladie.
Alors le site internet www.endomind.fr et tout est dessus.
Bien, quelle différence entre l'endométriose et ce qu'on appelle l'adénomyose ? Est-ce que c'est la même chose ou c'est pas la même chose ?
Alors, l'adénomyose est une forme d'endométriose, donc c'est une atteinte de l'utérus.
Oui, tout à fait. En fait, l'endométriose, comme on l'a dit, c'est imaginer des petits foyers, en fait, des mini-utérus. Si, pour faire vraiment raccourci, c'est ça. Ça peut être des kystes, des nodules qui sont éparpillés un peu partout. Soit dans la partie génitale pure, donc dans le pelvis, donc dans le bassin, ou alors plus haut. Et dans le bassin, ça peut être en extra-utérin ou en intra-utérin. Et quand c'est situé dans la muqueuse de l'utérus, c'est ça qu'on appelle l'adénomyose. Donc c'est une forme d'endométriose, c'est pas un truc à part.
Alors, vous parliez des différents degrés d'endométriose, mais pourtant tous sont douloureux de toute façon.
Voilà, tout à fait. En fait, c'est l'American Fertility Society.
Pour la faire. Entraînez-vous, Nadia, pour vos interviews aux États-Unis.
Pour faire sérieux, qui a effectivement donné 5 catégories, enfin 5 stades d'endométriose. Comme je disais, elle part du stade 1 au stade 5. Le stade 1, c'est l'endométriose minime. Le 2, c'est légère. La 3, c'est la modérée. La 4, sévère. Et la 5, c'est l'extensive. Donc celle qui s'est vraiment répandue de façon massive. C'est juste un repère, hein, parce que c'est pour ça que les stades comme ça. Généralement, on n'aime pas trop quand on est en clinique, parce que quand on entend une endométriose minime, on peut se dire « oh ben c'est rien ». Mais un stade dit minime dans cette catégorie-là peut être très douloureux pour une femme. Donc c'est pas dans l'évaluation de la douleur, hein, c'est dans l'évaluation de l'extension. Et donc, la corrélation qui est faite avec la fertilité, il est bien spécifié qu'une femme qui a un stade 1 n'est pas plus fertile qu'une femme qui a un stade 5, et vice-versa. Une femme qui a un stade 5 n'est pas moins fertile qu'une femme plus fertile ou moins fertile qu'une femme d'un stade 1. Ça n'a pas de rapport immédiat. Il faut bien le préciser. Donc les patientes qui s'entendent dire vous avez une endométriose, vous aurez des difficultés. Moi, je dis, la personne a une boule de cristal. C'est pas en ces termes-là qu'il faut dire les choses. C'est-à-dire que la femme fait une batterie d'examens, et en fonction de ces examens,
on peut lui expliquer en fait que si par exemple son endométriose a un impact sur les trompes par exemple, hein, et qu'il y a une atrophie des trompes ou les trompes sont bouchées, on peut lui expliquer qu'effectivement ça peut empêcher le déplacement de l'œuf vers l'utérus pour qu'il puisse nider, faire sa nidation, et donc on va faire en sorte de déboucher ces trompes là mais on y va par stade. On peut pas comme ça dire oui, eh ben vous aurez du mal à avoir des enfants. Et effectivement, on disait hors antenne, il y a des médecins qui se précipitent en disant oui, bah écoutez, hein, faites un enfant assez rapidement parce que si vous avez une extension de cette endométriose, eh ben vos chances sont réduites voire quasi nulles. Mais comment peut-il dire ça? Comment peut-il dire ça? C'est pas comme ça, c'est pas, la médecine,
d'accord,
c'est pas
ça. D'accord, la forme est peut-être pas bien, mais finalement, plus les femmes font des enfants jeunes et plus leur chance d'en avoir est importante.
Oui, mais alors là, on parle d'autre chose.
Voilà.
Ça, c'est pas forcément lié à l'endométriose.
Non, mais voilà, j'essaye de me faire l'avocat de ces médecins que vous pointez du doigt.
C'est ce que j'essaye de dire.
Mais vous l'avez entendu, ça, mais Nadia, voilà, on dit toujours aux femmes, faites des enfants jeunes parce qu'au moins, c'est plus facile.
On n'est pas en train de jeter l'opprobre sur les médecins, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire, parce qu'il y a ce que dit le médecin, il y a aussi ce qu'entend la patiente, il y a aussi le délai de consultation de ce médecin, donc il y a tous ces facteurs qu'il faut prendre.
Double peine.
Voilà. Donc, ce que je suis en train de dire, tout simplement, c'est qu'il faut expliquer à nos auditrices que c'est multifactoriel. Ce n'est pas... c'est du cas par cas. Donc, en fonction du cas d'endométriose de cette patiente, on va lui expliquer les choses progressivement. Une patiente qui a une adénomyose, on lui expliquera quelles conséquences ça peut avoir effectivement sur une grossesse, sur peut-être une difficulté de la nidation qui peut être présente chez n'importe quelle femme, la nidation. Il y a des femmes qui n'ont pas d'endométriose et pourtant elles font des fausses couches à répétition, on fait des examens, l'endomètre est intact et pourtant la nidation ne se fait pas. Donc c'est juste ça que j'essaie de vous dire, que c'est du cas par cas, l'explication est au cas par cas. Donc si on a dit à votre copine qu'elle avait une infertilité pour X raisons parce qu'elle a fait une batterie d'examens qui correspond à son cas, ce n'est pas votre cas à vous si vous présentez également une endométriose. Il faut vous avoir les explications qui sont en rapport avec le type d'endométriose que vous avez. C'est juste ça que j'essaie de dire.
Quel est l'impact d'une endométriose sur la grossesse? Ou de la grossesse, pardon, sur une endométriose? Est-ce que finalement, ça va l'aggraver ou pas, Nadia?
Alors, pendant longtemps, il y a cette croyance, effectivement, et d'ailleurs, on l'entend encore au Maroc. Tu as mal quand tu as tes règles, quand tu tomberas enceinte, ça ira mieux. Après ton premier enfant, ça ira mieux. On l'entend encore maintenant.
On l'entend encore, même en France. Il y a encore des médecins qui recommandent aux patientes de faire un enfant
pour calmer les douleurs. Voilà, exactement, les douleurs liées à l'endométriose. Alors, faut savoir que ce qui a été relevé par la littérature scientifique et par les cas cliniques, c'est que le premier trimestre peut faire effectivement flamber l'endométriose et la femme, lors du premier trimestre, peut avoir des douleurs qui s'intensifient. Et pour des mécanismes qui sont pas encore complètement connus, lors du deuxième et troisième trimestre, effectivement, il y a un temps d'accalmie. On pense que c'est lié aux hormones, mais pas que. Et donc, il y a ce temps d'accalmie. Et après l'accouchement et le retour de couche, eh ben, les douleurs qui existaient au préalable peuvent réapparaître.
Quelque chose qui est important de souligner, ce sont les conséquences sur la qualité de la vie de la femme, et qui est souvent niée d'ailleurs.
Oui.
On dit toujours un petit doliprane et ça ira mieux.
C'est ce qu'on dit effectivement. Maintenant, suivant les atteintes de la maladie, il peut y avoir des douleurs qui deviennent handicapantes. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un problème. Donc, si on a une atteinte digestive, par exemple, on peut avoir des problèmes digestifs forcément liés. Des douleurs abdominales persistantes, mais qui peuvent effectivement empêcher la personne de travailler. Donc, On est absente du travail, on est absente de l'école quand on est jeune. On peut aussi en venir à annuler les soirées avec les copines, avec les amis, les déplacements, les week-ends, les vacances. Enfin, ça a un impact sur tout un tas d'aspects de la vie. Donc, au final, la femme s'isole. Il y a beaucoup de couples qui ne résistent pas non plus à cette maladie. Donc ça peut avoir des conséquences à divers niveaux de la vie de la femme, ça c'est certain.
Oui, et d'où l'importance de ne pas nier ni minimiser les douleurs. Hein.
Exactement.
Je ne sais pas, est-ce qu'on a un appel ou pas? Oui, 01 53 40... Non, on n'a pas d'appel. Non, enfin, je sais pas. J'essaie de...
Philippe, effectivement, il ne faut pas minimiser et se dire, oui, bon, ça va passer, enfin, t'inquiète pas, essaye d'oublier, alors ça, c'est le truc qui revient assez souvent, essaye d'oublier, fais pas attention, focalise-toi sur autre chose et tu verras, ça passera. Et donc, de minimiser, en fait, cette femme finit par se taire, parce qu'elle se dit, elle se rend compte qu'elle saoule son entourage, c'est pour parler de façon familière, et donc du coup elle se dit, puisqu'on me comprend pas, je me recroqueville sur moi-même.
Elle s'isole complètement.
Elle s'isole, et on a des femmes qui présentent un état dépressif par la suite, parce que elles se sentent complètement incomprises, pas entendues dans leur douleur, dans leur souffrance.
Bouchra est avec nous au 01 53 48 3000. Bienvenue Bouchra.
Oui, bonsoir. Bonjour.
Ah, bonjour. On a encore...
Bonjour.
On peut se dire bonjour encore.
C'est le début de la journée, c'est vrai. Moi j'ai 40 ans. J'ai su que j'avais l'endométriose, ça fait à peu près à peine 10 ans. Avant d'avoir cette maladie, j'ai eu une grossesse, j'ai fait un décollement du placenta, en fait. Et avec une hémorragie interne à terme, donc j'ai perdu mon premier enfant, et ensuite j'ai été traitée, mais c'est vrai que j'ai pas mal de problèmes à ce niveau-là, quoi. J'ai des douleurs tout le temps, on m'a dit de me faire opérer, mais j'appréhende, en fait, j'ai pas trop envie de me faire opérer, je sais pas trop comment, mais c'est vrai que c'est difficile à vivre tous les jours, quoi, parce que c'est très douloureux tout le temps. Et voilà.
Alors, l'alternative à l'opération, Nadia?
Alors oui, d'où l'intérêt justement de se faire prendre en charge par une équipe vraiment spécialisée, parce qu'on ne bouscule pas les patientes. Quand il y a une nécessité justement chirurgicale, on ne bouscule pas les patientes. Il y a vraiment un processus déjà d'explication et aussi d'assimilation du côté de la patiente pour accepter, effectivement, de laisser un chirurgien intervenir, parce qu'il y a cette peur de passer au bloc opératoire qui est tout à fait
c'est pas anodin, exactement.
Il y a de plus en plus de chirurgiens experts de l'endométriose qui travaillent avec d'autres praticiens aussi et qui s'orientent vers des médecines plus douces pour améliorer justement le confort de vie et diminuer les symptômes. Donc c'est des pistes aussi qui peut être intéressant d'explorer.
Tout à fait. Tout ce qui est ce qu'on appelle médecine alternative.
Mais on trouve ça où? Enfin, sur votre site, il y a des adresses,
chaque gynécologue expert de l'endométriose qui va mettre en place un réseau. Donc, on peut avoir effectivement sur le site de l'association quelques médecins qui pratiquent ce genre de relations avec d'autres experts.
Voilà, donc quand on parle de médecine alternative, c'est concrètement, alors sur le plan paramédical, ça peut être de la kiné, et sur le plan plus médecine alternative, c'est l'ostéopathie, l'homéopathie, la phytothérapie,
la sophrologie, exactement,
et la naturopathie.
Exactement.
La naturopathie, parce que vous avez une émission tous les lundis avec Azaïs Kelsey. La naturopathie a cette vision, cette prise en charge holistique, globale de la patiente. Et donc, du coup, c'est effectivement associé avec la médecine conventionnelle, peut apporter de très bons résultats.
Tout à fait.
C'est très bien, merci de le préciser, effectivement.
Merci Bouchra pour votre appel. On arrive, l'émission arrive à sa fin. J'aimerais simplement qu'on rappelle les coordonnées de l'association, puisque vous êtes très nombreuses à vouloir justement avoir des informations sur l'endométriose.
Donc le site internet www.endomind.fr.
Voilà. Quelles sont vos prochaines actions?
Alors, nous avons des actions, une action le 28 mai à l'hôpital Trousseau, dans le 12e arrondissement de Paris, une journée porte ouverte avec la présence d'un gynécologue expert de l'endométriose. Donc, si vous voulez venir poser vos questions, rencontrer l'équipe de l'association, ça sera
le
tout à fait possible. Le 28 mai, pardon.
Oui,
et ensuite, le 4 juin, on a également une action à la mairie du 19e, sur le parvis de la mairie du 19e.
D'accord. Bien, pour ceux qui veulent laisser des messages à Nadia et qui veulent lui poser des questions, votre site, Nadia?
Alors, www.nadiaelbouga.com.
Alors, parce qu'on ne peut pas donner vos coordonnées à l'antenne.
Tout à fait.
Sinon, le conseil de l'ordre va tac, tac, tac. Mais bon, il y a toutes les informations sur votre site. Merci, Nathalie Cléry,
merci
d'avoir consacré du temps aux éditeurs de Beurre FM. On refera une émission. Merci, Nadia. À la semaine prochaine.
Merci à vous.
Voilà, et puis ceux qui liront le courrier de la classe de ce mois-ci verront l'interview que vous leur avez consacrée, Nadia. Et on retrouve la semaine prochaine. Demain, nous parlerons de course, de running. On verra comment se nourrir quand on pratique la course. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM.